Allô, je m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait...
Moi, je suis André Dumbuchmaï, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui...
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Le 25 mai de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'Afrique. Cette journée commémore l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité Africaine, OIA. Sorti de la colonisation politique vers les années 60, le continent noir continue à se battre pour relever plusieurs défis sociaux auxquels elle fait face. En marge de cette journée, certains observateurs relancent donc les débats sur l'impact de différents programmes de développement initiés par l'UA pour l'Afrique en général et la RDC en particulier. Quelles retombées les programmes socio-économiques intégrateurs ont-elles eu sur la vie de peuples en Afrique et en RDC en particulier? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 63 15 pour participer à ce débat. Noël Aluzitou et Mimi Kindou sont à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Nikangaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Permettez-nous de profiter de ce micro pour rendre hommage à Louis-Serge Molangui, un des premiers auditeurs qui ont démarré cette émission depuis, disons, 2009. Plusieurs fois, nous l'avions proposé dans nos débats comme invité sur les questions liées à la relance de la SNTP ex-Onatra. Suite à son expertise, l'ancien cadre de l'Onatra vient de nous quitter et paix à son âme. Voilà, nous revenons dans ce studio avec vous, Madame Tokwaulu Aina. Vous êtes très engagée dans la vie politique et aujourd'hui aussi écrivaine. Vous avez écrit beaucoup de livres et dans vos ouvrages, vous avez aussi évoqué la question de la démocratie et aussi des institutions qui doivent être très fortes pour arriver à mener à bon port donc les actions de développement de notre pays. Une fois encore, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs, bonjour
et
à vous.
Voilà, et merci d'avoir fait les déplacements de ce studio. Comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique et l'avenir de la RDC?
Bon, vous savez, nous parlons de l'Union africaine. Vous savez qu'en 2002, l'organisation de l'unité africaine a été transformée en Union africaine. Et quel sens ça avait? Ça avait pour le sens qu'on disait qu'il ne pouvait pas y avoir de développement dans l'Afrique sans institutions démocratiques. Et c'est sous l'impulsion du président sud-africain Thabo Mbeki qu'on a créé le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement. Donc, développement, fin du chômage, mais le corollaire, ce sont des institutions démocratiques et des institutions fortes.
Alors aujourd'hui, je l'ai dit, il y a plusieurs programmes qui ont été proposés, initiés par l'Union africaine. C'est vrai, est-ce que s'il faut compter aujourd'hui les retombées de ces programmes, particulièrement en RDC, est-ce que vous pouvez nous faire une idée?
Mais vous savez, vous, les journalistes, vous êtes bien placés pour savoir quelle est la situation de l'Afrique. Quelles sont les images de l'Afrique qu'on nous présente en ce moment? Les images de l'Afrique, c'est Lampedusa. Ce sont ces milliers d'émigrés. Je crois que hier ou avant-hier, c'était 3500 émigrés venus d'Afrique. Lampedusa, c'est cette île qui se trouve à la frontière de Libye et l'Italie, qui est italienne, et où tous les réfugiés se précipitent. Et l'image de l'Afrique, c'est ces morts qui sont alignés sur la plage, ou ces Africains, hommes et femmes, qui sont reçus par des organisations humanitaires, qui portent des gants de peur d'attraper des microbes. L'image de l'Afrique, ce sont tous ces enfants que vous voyez franchir, prendre d'assaut les frontières entre le Maroc et l'Espagne. Ils prennent d'assaut les frontières, 500 000 personnes, et ils arrivent sur le territoire espagnol et ils embrassent le sol. Alors l'Afrique, c'est quoi? Pourquoi tout ça? L'image de l'Afrique, c'est Boko Haram. C'est Boko Haram qui a pris en otage des lycéennes. Mais Boko Haram, c'est quoi? Boko Haram, c'est l'image de l'Afrique au pire. C'est-à-dire le chômage, l'analphabétisme, vous ajoutez la drogue, vous ajoutez
la corruption,
l'intégrisme religieux et vous avez Boko Haram. Lorsque vous prenez le chômage et l'alphabétisme, vous avez ces enfants qui préfèrent se suicider dans l'océan Atlantique et dans la mer Méditerranée et quitter l'Afrique. Alors vous vous dites, est-ce que l'Union africaine a réussi ? Moi je dis qu'il y a échec de l'Union africaine, ne serait-ce que dans cette partie développement. Pourquoi il y a échec ? Parce qu'il n'y a pas démocratie ou il y a des institutions faibles qui ne remplissent pas leur rôle.
Mais je crois que la démocratie, depuis 1990, on a vu plusieurs États africains opter pour cette formule, pour ce régime démocratique. Mais aujourd'hui, on a du mal à avancer, à émerger. Et c'est comme si, pour ne pas paraphraser l'écrivain congolais qui disait la démocratie, ce n'est pas un bon aliment pour les Africains.
Bon, vous savez, le président Barack Obama a dit, je crois, en 2010, que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes. Moi, je l'ai écrit, en 2001. Bon, je ne dis pas qu'il y a eu plagiat, je dis que les personnes censées, leur esprit se rencontrent. Je vais vous donner un exemple simple. Nous sommes en RDC, nous avons des institutions démocratiques, nous avons des élections. En ce moment, nous avons un taux de croissance. Je crois que le Premier ministre a dit que le taux de croissance était de 8%. Effectivement, nous avons fait des progrès. Nous avons un taux de croissance de 8%. Le gouvernement ne vit pas dans les déficits, dans un budget déficitaire. Les salaires des fonctionnaires de la police et de l'armée, salaire qui est pas suffisamment important, mais est payé dans les temps. Mais quand vous avez ces chiffres positifs, qu'est-ce que vous avez en retombée sur la population ? C'est là que le politique intervient. Parce que, d'un point de vue technocratique, nous pouvons avoir des résultats économiques. Lorsqu'on dit un taux de croissance de 8%, effectivement, nous l'avons. Nous l'avons obtenu par la bancarisation, nous l'avons obtenu par beaucoup de choses. Mais là où les institutions démocratiques entrent en jeu, c'est au niveau du Parlement que l'on conduit l'action gouvernementale. C'est au niveau du Parlement que l'on doit demander au gouvernement. 8%, c'est bien, mais la redistribution de revenus de la croissance, nous le faisons comment ? Je peux vous donner un bête exemple pour que vous puissiez comprendre comment la vision politique peut changer les choses. Nous avons un taux de croissance de 8%. Nous avons, semble-t-il, des réserves au niveau des banques pour assurer au moins trois années d'importation de vivres. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Imaginez que le gouvernement ait la volonté politique de mettre en place une garantie gouvernementale pour les banques commerciales de façon à ce que les banques commerciales puissent accorder des crédits à des taux d'intérêt intéressants aux gens qui pourraient ne pas avoir accès au crédit. Vous êtes journaliste. Qu'est-ce que vous faites de votre revenu ? L'essentiel de votre revenu, je pense qu'il part dans le loyer parce que vous êtes un locataire. Donc vous dépensez peut-être 200, 300 dollars pour vous loger dans un bouge quelque part à la cité d'une pièce avec une chambre et des toilettes communes. Mais si le gouvernement donnait l'occasion à des sociétés privées de construire des logements que vous pourriez avoir à crédit, eh ben vous auriez une capacité supérieure de consommation.
Une partie du problème.
Parce que la croissance, c'est la consommation. La consommation des personnes. Nous sommes 67 millions, peut-être 70 millions de Congolais, 70 millions de consommateurs. C'est un pays qui se développe. Donc il faut que le gouvernement puisse vous donner accès à cette croissance. Je prends un exemple encore plus facile. Vous prenez un chauffeur de taxi. Récemment, j'ai pris beaucoup le taxi parce que ma voiture était en panne. Donc la plupart des gens me connaissent. Ils disent « Ah, maman, t'as quoi l'eau ?» et les gens me racontent leur vie. Vous prenez un chauffeur de taxi. Un taxi d'occasion, une voiture d'occasion, ça coûte 4 000, 5 000 $. Mais vous savez que le propriétaire du taxi se fait 1 000 $ par mois. Ce chauffeur-là se fait à peu près 200 $ par mois lorsqu'il conduit. Mais si ce chauffeur a accès au crédit pour pouvoir acheter son taxi, c'est un consommateur. Mais les banques ne peuvent pas lui donner le crédit. Il n'a pas de garantie. Il n'a pas de garantie. Il n'a pas de propriété.
Tout à fait. Encore vos propos, Madame Tokaoulou. Aujourd'hui, l'Afrique a un problème de gouvernance. Parce que vous l'avez dit, si nous tenons vraiment à développer l'Afrique, à développer la RDC, il faut des institutions fortes. Donc, c'est comme pour dire aujourd'hui, il y a quand même un grand défi à relever de ce côté-là. Comment arriver quand même à avoir des institutions fortes?
Mais
parce que c'est un problème d'homme, c'est un problème de système.
Les institutions fortes dépendent d'une constitution forte. Les institutions fortes dépendent d'un peuple citoyen. Lorsque je vous dis que le développement d'un pays, les choix de développement d'un pays dépendent du Parlement, parce que le gouvernement est une émanation du Parlement. Le Parlement peut vous faire partir un gouvernement demain. Mais qui choisit les députés au Parlement? Moi, je me suis tue politiquement pendant 3 ans parce que j'étais frustrée, parce que je n'ai pas été élue députée. Le peuple a le choix. Mais est-ce que nous avons un peuple qui sait que c'est son choix citoyen qui renforce les institutions? Est-ce que le peuple sait que la force des institutions dépend de lui? Moi, je n'ai pas été élue. Celui qui a été élu, bon, je ne le citerai pas, il est en droit d'être élu.
Oui, parce que là, c'est déjà...
Mais il a été élu parce que, maman, ce qui est Moutoua Koufi, appelle ça qu'à Corbilla, toi appelle ça qu'à Cercueil.
Oui, parce que
donc, ça veut dire qu'on élue un député national pour des petites raisons égoïsmes de proximité.
Oui, parce que déjà, au niveau des partis politiques, il faut que les gens arrivent à sensibiliser, à éduquer civiquement...
Laissons les partis politiques. Les partis politiques, ce sont des gens engagés. Je vous parle du citoyen.
Voilà,
on va
y revenir, madame.
Et moi, ils votent. Voilà. Il vote pourquoi? Il voilà. vote quelqu'un va... de sa tribu.
On va y revenir.
Vote le député qui habite à côté de sa maison. Voilà. Il doit voter pour des objectifs nationaux.
Voilà, tout ça, on va revenir le temps, comme l'a dit, peut-être j'annonce anticipativement en disant qu'il y a la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui lance la 3e édition, d'ailleurs, du rapport sur la gouvernance en Afrique, ce jeudi 5 juin 2014 à Addis Abeba, à l'Éthiopie. Alors, il faut noter que ce rapport met déjà l'accent sur les thèmes, élections et gestion de la diversité. Les rapports indiquent que dans l'ensemble, l'Afrique a fait des progrès dans certains domaines, y compris dans le respect des droits de l'homme et de l'état des droits, de la capacité législative, de l'engagement de la société civile et des libertés civiles. Alors cela étant, les progrès restent minimes et n'ont pas permis de renforcer le processus de démocratisation sur les continents. Donc on va y revenir, le temps d'ouvrir le standard et accueillir aussi le premier auditeur, 081-890-6315.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Franck, vous nous rejoignez, vous êtes à Vienne. Bonjour Franck.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à madame l'invité, aussi à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Vous avez la parole Franck.
Je vous en prie pour la parole. J'ai bien suivi l'introduction faite par votre invité. La concrétisation des aspirations tout comme des préoccupations de l'Union africaine ne doit pas se comprendre en dehors du contexte sociologique et politique dans lequel est issue cette union. Et si nous devons bien voir, 50 ans après les années des indépendances, 50 ans après nos indépendances juridiques dans certains États, il se constate que le bilan de cette union reste encore mitigé. Il est mitigé selon moi parce que même s'il y a une certaine prise de conscience de l'identité africaine qui prend de plus en plus certains contours, même s'il y a des regroupements régionaux au niveau continental entre certains États, même s'il y a certains projets à impact qui sont financés par la Banque africaine du développement, nous devons vraiment le dire tout haut qu'il y a encore une liste de défis à relever qui est encore à l'actif de la même union, quoi. Et je trouve, comme votre invité venait de le dire, le plus grand problème, c'est au niveau du fonctionnement de cette union. Le plus grand écueil, c'est au niveau de la politique économique, de l'économie, puis aussi à l'aspect juridique qui peut s'ajouter à cela. Donc, tant qu'il y aura des contraintes, parfois occultes, venant surtout des États nantis de la planète, tant que l'Afrique restera sous influence de ces mêmes puissances, tant que ce système de prendre les Africains pour des êtres subordonnés, qui n'attendrait que des directives à suivre venant de telle ou telle autre capitale occidentale, la concrétisation des aspirations de cette union risquera de demeurer un idéal, mais un idéal avec beaucoup de dilemmes palpables. C'est ce qui explique même que certains problèmes que nous connaissons au quotidien, les problèmes de crise de légitimité, soient toujours actuels, quoi. Et ce qui est parfois regrettable, selon moi, c'est le fait que nous assistons parfois à des scènes selon lesquelles l'Afrique est soumise à un jeu de néocolonialisme. C'est comme si l'Afrique est vraiment gérée par procuration, comme le disait le prof Oscar Dumouy-Nkouch. L'Afrique est parfois déstabilisée, envahie par ses propres fils de filles. On se sert de l'Africain pour aller tuer, exterminer les autres Africains, avec allégeance à ce qui se passe en RDC avec ses voisins de l'Est. On se sert des Africains pour étouffer l'élan de certains dirigeants africains voulant pousser les autres citoyens africains à cet éveil de leur conscience. On peut ici se référer au cas de la Libye, on peut se référer au cas de la RDC, on peut même se rendre compte qu'en Afrique, quand il y a un nationaliste, un dirigeant nationaliste qui travaille, qui milite pour pousser ces pères africains à devenir autonomes, il est pris pour
il y a toujours des problèmes.
On les traite de communistes, on les traite d'eux, et on doit tout faire pour l'étouffer. Et si nous devons bien voir, le problème qui se pose là, monsieur les journalistes, comme votre invité vient de le dire, c'est un problème de conception. Nous avons quelle conception pour nous gouverner? Et quand on voit d'abord comment ça se passe chez nous, nous devons aussi dire que les Africains, nos citoyens africains, nous devons nous dédouaner impérativement, nous devons nous libérer de ces complexes dans lesquels nous nous enfermons parfois. De penser que notre salut, notre bonheur, notre développement viendrait de l'Occident. Il y a un théologien sociologue camerounais, il a aussi bien illustré dans son ouvrage L'étude de l'homme africain. Oui, il y a les systèmes de formation des citoyens africains qui doivent encore être repensés. Notre scolarité, du maternel à l'université, on doit d'abord centrer les besoins locaux. Ça doit être centré sur les besoins locaux, nationaux. Mais si on se rend bien compte, on forme les Africains, mais il y a des Africains qui connaissent mal leur pays. Et après avoir été dans des universités, ils aspirent pour aller évoluer ailleurs. Donc là aussi, comme madame venait de le dire, nos dirigeants devaient aussi s'interpeller. J'ai plus de 35 ans, je n'ai jamais vu un seul dirigeant africain avant d'être voté, avant d'être accepté, on doit d'abord demander l'avis ou bien l'aval des dirigeants africains ou des Africains. Mais chez nous, c'est le contraire. Donc, si la tête de tel ne plaît pas à telle capitale de l'Occident, si tel ne répond pas aux agendas des lobbies, donc il ne peut pas servir, il ne peut pas bien travailler.
Voilà, merci
alors,
beaucoup, Franck.
Alors, quand c'est déjà, oui. Il ne travaille pas pour
rapidement, Franck.
Aux agendas des autres.
Oui, Franck, oui. Si on peut quand même parler, je crois qu'on va chuter par là. Il y a d'autres auditeurs qui attendent aussi pour intervenir, Franck. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, pour vous, jusque-là, le bilan est mitigé.
Moi, j'ai dit que le bilan est vraiment mitigé.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne, en Autriche. Nous prenons Papy qui est à Kinshasa. Papy, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bon début de semaine à tout le monde.
Vous avez la parole, Papy. Quel est votre point de vue?
Oui, merci de la parole, une fois de plus. À moi, nos sociopolitiques ainsi que l'intégration de l'Afrique demandent préalablement que les États africains résolvent d'abord leurs problèmes au niveau interne. C'est-à-dire que nous devons avoir des États légitimes, les États des droits et les États démocratiques. En d'autres termes, il faut une mutation des États illégitimes, autocratiques, vers les États des droits et les États démocratiques. Alors, l'idée du développement et l'intégration de l'Afrique est acceptée par presque tous les Africains. Mais le problème se pose au niveau des moyens de ce développement-là. Il faut analyser secteur par secteur au niveau de chaque région ou au niveau du continent en général. Identifier les obstacles de cette intégration ou de ce développement et identifier tous les secteurs prioritaires. Donc, à mon avis, je vois que pour arriver à ces fins, l'Afrique a besoin des hommes et non des institutions. Il faut
pour l'Afrique, des hommes dévoués pour sa cause, des hommes qui sont prêts à sacrifier, à se sacrifier à cette fin, les hommes capables à faire face au néocolonialisme imposé par les Occidentaux et les États-Unis qui sont érigés en gendarmes du monde, comme vous le savez, surtout de l'Afrique où ils sont à l'origine de l'instabilité sociale et politique des majorités des pays africains où ils ne cessent aussi d'imposer leur dictat. Alors, par rapport au secteur prioritaire qui sont relevés, monsieur le journaliste, le défi à relever en Afrique, c'est d'abord mettre l'accent sur le secteur douanier où il ne suffit pas de conclure des accords et traités internationaux au niveau régional ou sous-régional relatif à la suppression des barrières douanières. Faut-il encore, donc, faut-il préalablement prévoir les moyens de compensation? Car le secteur douanier génère beaucoup de recettes pour les différents États africains. Passer outre cette proposition, serait un coup d'épée dans l'eau. Alors, dans le secteur du commerce, l'Afrique ne commerce pas avec elle-même. Par exemple, les États africains producteurs de pétrole préfèrent bien.
Voilà, je crois que papy, il y a même quelques temps ici, nous avons assisté à ces accords qui ont été signés entre la RDC, la Zambie et la Tanzanie, hein, pour au fait arriver à avoir un territoire douanier unique. Je crois que c'est déjà là des efforts qui sont menés dans le sens du développement pour chercher au fait à résoudre cette barrière douanière. Merci beaucoup papy d'avoir appelé. Nous allons prendre Adrien qui est à Kananga. Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, JR.
Vous avez la parole, Adrien.
Merci, JR, pour la parole que vous m'accordez. Je pense, JR, je l'ai toujours dit, on ne peut pas prétendre à développer l'Afrique lorsque nous ne définissons pas notre politique d'une manière générale par rapport au développement de l'Afrique. Donc là, je fais allusion à l'instance qu'on appelle l'Union africaine. Parce que lorsque nous regardons la politique générale en matière de développement. Qu'est-ce que l'Union africaine nous dit? Donc, vous ne sentez pas la volonté claire et nette de développer l'Afrique. Deuxièmement, vous allez vous rendre compte, si je peux revenir pour le bilan, contrairement à mon ami Franck, je pense que le bilan est négatif. Hein? Nous ne pouvons pas chercher les mots, parce que tout est vraiment au rouge. Il y a un sérieux problème, et là où je suis d'accord avec mon ami Papi, c'est lorsque il aborde la question des hommes. Moi, je pense, contrairement à madame l'invité, l'Afrique n'a pas besoin de rien de chercher des institutions fortes, parce que au jour d'aujourd'hui, lorsque nous voyons le développement, donc la marche de l'Afrique, l'Afrique a besoin des hommes, donc des leadership visionnaires. De la trempe de Kadhafi, pourquoi pas? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'Afrique n'a pas son destin entre ses propres mains. L'Afrique est inféodée par la politique venant d'ailleurs, de l'Europe, de l'Amérique, et là nous manquons des hommes capables de pouvoir résister à toutes ces dictats, à toutes ces choses-là pour dire non à toutes ces idées donc impérialistes. Et puis troisièmement, vous allez vous rendre compte, JR, qu'il se pose un sérieux problème. Donc, c'est comme si lorsque l'Européen ou bien l'Américain n'intervient pas, l'Africain n'a pas de solution à donner. Nous avons vu, donc si je peux donner un petit exemple de notre pays avec nos compatriotes expulsés du Congo-Brazzaville. Mais ailleurs, vous ne pouvez pas trouver ça. Par exemple, en Europe. Et lorsque ça s'est fait, l'Union africaine, personne n'a réagi. On trouve ça que non, c'est normal. C'est ce qui fait la différence entre nous, Africains, et peut-être les Européens, les Américains. Il y a d'abord cet amour-là de son prochain. Et on ne peut pas sacrifier un Américain, un Européen, avec des humiliations comme ça. Et puis, pour finir, vous allez vous rendre compte que l'économie africaine, jusqu'au jour d'aujourd'hui, demeure et elle est reposée entre les mains des puissances occidentales. Et là, c'est difficile. C'est difficile pour nous, pour qu'on puisse prétendre développer ou bien faire avancer l'Afrique avec de telles conceptions. C'est pour cela, moi, je pense que la solution passe d'abord par chercher des hommes capables au niveau de l'Afrique, donc des leaders, des leaderships voilà. qui peuvent vraiment faire face à tous ces problèmes. Là, deuxièmement, il faut chercher donc la véritable indépendance de l'Afrique. Parce que moi, je me rends compte que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique peut-être sur papier l'indépendance, mais concrètement, elle n'est pas indépendante. Donc, lorsque on réunira toutes ces choses-là, ce sera vraiment le véritable développement de l'Afrique.
Voilà. Alors, pour reprendre un peu le mot, en vous suivant, les mots du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, disons en marge de cette journée, il a dit ceci avant de clôturer d'ailleurs son discours. Il dit, l'Organisation des Nations Unies maintiendra donc avec l'Union africaine un solide partenariat en faveur de la paix, du développement durable, de la démocratie et des droits de l'homme. En cette journée de l'Afrique, engageons-nous à continuer de nous tenir aux côtés des peuples et des dirigeants africains alors qu'ils progressent sur la voie d'un avenir plus pacifique, plus prospère et plus stable pour tous. Madame Tokaoulou Aina, vous êtes notre invitée, vous avez suivi cette première série des auditeurs, des institutions fortes, bon, beaucoup n'en croient pas, demandent plutôt un leadership fort, des hommes capables de pouvoir mener vraiment le destin de cette Afrique au bon port. Que répondez-vous aux uns aux autres?
Vous savez, le premier livre que j'ai écrit racontait l'histoire de mon pays, l'histoire de ma famille dans l'histoire du pays. Quel était le constat? Le constat, c'est que notre pays, la RDC, n'arrivait pas à évoluer parce qu'en bon bantou, nous étions toujours à la recherche d'un homme fort, derrière lequel se mettre. Alors, quand l'homme est fort et il est bien disposé, il n'y a pas de problème. Nous avons eu 32 ans de Mobutu. Pendant cette période, il y a des périodes où nous avons dansé le Njalelo, il y a des périodes de politique au recours à l'authenticité. Moi, je suis une enfant de Mobutu, je suis né en 61, pas biologique, comprenons-nous. Je suis né en 61, donc je suis la génération des enfants Mobutu. Politique de recours à l'authenticité, indépendance économique, objectif 80, il y avait tout ça. Tant que Mobutu était fort, il était en bonne santé, on a dansé le Njalelo. Quand il est devenu faible, eh ben sa politique est partie avec lui. Ça veut dire que quand on dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes, ça veut dire qu'il faut apprendre à compter sur ces institutions, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à compter sur sa constitution.
Mais si nous prenons le cas de notre pays, madame, si nous prenons le cas de notre pays aujourd'hui, nous avons des institutions. Autrefois, on n'avait pas le Parlement dans les formats actuels. Aujourd'hui, avec cette histoire des consignes, donc quand on donne des consignes, c'est vrai que on ne voit pas l'intérêt du peuple.
Mais les institutions...
Les consignes, ça passe par des institutions et des hommes.
Les institutions sont fortes lorsque vous avez un peuple citoyen. Dans le peuple citoyen, il y a ceux qui votent et il y a ceux qui sont élus. Moi, je parle au peuple citoyen. Lorsque vous votez, est-ce que vous votez quelqu'un sur la base d'un programme? Est-ce que vous votez quelqu'un sur la base des idées? Ou bien vous votez votre frère parce qu'il est dans la même tribu que vous? Moi, je me suis présenté aux élections ici à Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'on m'avait dit dans ma famille politique? On dit, madame, excusez-moi. On m'a dit, allez dans votre village, vous allez être élu. Je suis venue à Kinshasa, je n'ai pas été élu. C'est-à-dire que le Congolais lui-même, comme disait Kennedy, ne pense pas ce que ce pays peut faire pour toi. Pense ce que tu peux faire pour ton pays. Le Congolais lui-même doit croire à sa capacité de citoyen. Le Congolais lui-même doit pouvoir choisir ses députés. Parce que si vous choisissez 500 bons députés, ces députés vont dire au gouvernement félicitations pour la croissance, mais maintenant la répartition des fruits de la croissance, vous faites comment?
Ailleurs en Afrique, le problème ne se pose pas. Nous prenons par exemple les cas des toutes dernières élections qui ont eu lieu au Malawi. Et nous avons vu, c'est vrai que le pays allait entrer en une crise, mais finalement les hommes se sont dit, ben voilà, c'est notre pays, il faut aller, qu'on aille de l'avant. Madame Joyce a dû quand même reconnaître la défaite face à l'autre. Alors, je crois que le peuple n'organise pas les élections, mais ce sont des politiques qui doivent se dépasser, qui doivent faire en sorte que, aujourd'hui, nous travaillons tous pour le destin, pour l'avenir de l'Afrique.
Bon, le problème de l'Union africaine, c'est que chaque pays évolue à son rythme. Chaque pays n'a pas les mêmes problèmes. Mais un homme politique, c'est quelqu'un qui a le soutien d'une population. Est-ce que... vous-même, vous êtes engagé en tant que politicien, en tant que population, est-ce que vous êtes engagé derrière des hommes politiques? Est-ce que vous êtes engagé dans des partis? Est-ce que vous êtes engagé dans des ONG? Et même si vous ne l'êtes pas, est-ce que quand vous avez élu un député, vous lui avez fait ne serait-ce qu'une petite lettre pour dire « j'entends parler de ça, je suis pas d'accord, vous le déposez à son bureau ». Non, vous êtes là en train de regarder en disant « ah, nous avons besoin d'hommes forts, nous avons besoin ». Qu'est-ce que vous, vous faites pour votre pays ?
Alors, il y a un auditeur qui a évoqué les problèmes d'intégration régionale et sous-régionale aujourd'hui. Hein, c'est vrai, là aussi, les choses n'ont pas évolué en Afrique.
Papa, c'est difficile de parler d'intégration sous-régionale et régionale lorsque les pays eux-mêmes ne sont pas développés. Le chômage, c'est le chômage qui est la cause de tous les maux. Et pour qu'il y ait développement, il faut institution, il faut démocratie, il faut un parlement responsable qui guide l'action du gouvernement et qui contrôle l'action du gouvernement. Si on ne comprend pas ça, on ne se développera pas. Il ne faut pas se tarder de mots. Moi, j'ai envie de dire à Franck, notre problème, c'est que nous sommes trop intelligents. Notre problème, nous avons fait trop d'études. Notre problème, nous aimons trop les discours. Vous savez, moi, j'ai 4 diplômes universitaires, je suis juriste. Mais il y a des moments, c'est ma mère qui me dit « Ah, nyosowana zapo bazana musalate ». Alors effectivement, je m'arrête et puis je dis « Ah oui, le problème c'est le chômage ». Qu'est-ce que le gouvernement fait pour favoriser, je parle de notre pays, qu'est-ce que le gouvernement fait pour favoriser la création d'emplois ? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour favoriser la fin de la corruption ? Parce que pour que les investissements extérieurs viennent dans notre pays, encore faut-il qu'on mette en place cet organe de lutte contre la corruption. Pour que les investissements extérieurs viennent dans notre pays, encore faut-il que les banques, nos banques, aient la capacité d'offrir, d'accorder des prêts à des taux intéressants à des Congolais qui veulent peut-être acheter un camion à 20 000 dollars pour aller chercher des kwanga ou bien des légumes au Bas-Congo et venir les vendre. Vous savez que vous pouvez vous faire 3 000, 4 000 dollars en faisant venir un camion au Bas-Congo. Mais si vous êtes propriétaire de votre camion, et vous pouvez l'être que si la banque vous accorde un crédit.
Mais une chose est vraie, qu'il faut reconnaître que les efforts consentis par le gouvernement, particulièrement le Congolais, et certains pays africains aussi, hein, parce que en ce qui concerne l'octroi des crédits, il y a 15-20 ans même, on ne pouvait pas parler de crédits du peuple ici à RDC.
Aujourd'hui,
avec l'arrivée des banques, avec la bancarisation du pays, on sent quand même des efforts qui sont faits, même si les crédits... Bon, en fait, il y a un problème aussi, il y a un débat autour des taux d'intérêt, mais bon, du moins quand même, pour faire 1000 km, on fait quand même un premier pas.
Oui, mais nous avons l'intelligence, nous avons toutes les capacités, mais nous avons besoin au niveau du Parlement des députés qui savent conduire l'action du gouvernement. L'intelligence, personne ne peut la nier. Est-ce que vous avez oublié que nous avons reconstruit un système bancaire ? Il n'y avait plus de banque dans ce pays, je ne sais plus à quelle année. Je pense que c'est à partir de l'année 2000, nous avons réussi un système bancaire. Nous avons créé le franc congolais. Et actuellement, il y a une stabilisation du cadre macroéconomique. Nous l'acceptons. La question maintenant est politique. Comment la redistribution de tous ces fruits se fait ? Ça veut dire qu'au niveau politique, ça veut dire qu'au niveau du chef du gouvernement, les options doivent être politiques. Comment nous faisons ? Et moi, je dis que nous avons l'intelligence et nous avons la capacité de le faire. Regardez, il y a des immeubles qui grandissent dans toute la ville. Ce sont des millions de dollars. Ces immeubles appartiennent à leurs propriétaires, c'est bien pour eux. Un logement, ça coûte 4 000 dollars, c'est bien pour eux. Mais ça signifie qu'il y a dans ce pays de l'argent qui pourrait être dirigé vers la création de logements sociaux, mais d'une façon libérale, c'est-à-dire que ces personnes qui ont l'argent, comment les sensibiliser, comment les intéresser pour qu'elles construisent des logements sociaux et que pour tous ces enfants, ces jeunes je veux dire, qui travaillent dans les banques, qui travaillent dans les sociétés de communication, deviennent propriétaires de leur logement. Parce que si elles deviennent propriétaires de leur logement, elles sont libérées de la nécessité de payer un loyer. Eh bien, ce sont des consommateurs.
Voilà, Kenny est à Kinshasa, Joseph à Bukavu, Denis à Beni. Nous vous rappelons, chers auditeurs, vous pouvez nous rejoindre également en composant les 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
On prend cette deuxième série des auditeurs. Kenny, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité.
Voilà, Kenny, c'est plutôt JR qui est à l'antenne, vous avez la parole.
Oui, excusez-moi, je dirais ceci. Moi, je vais continuer à m'inscrire dans l'idée de mes prédécesseurs. Vous savez, le bilan de l'Union africaine est négatif. Elle est négative pourquoi ? parce que les chefs d'État qui se sont succédés à la tête des pays africains ont refusé ou bien n'ont pas voulu dissocier leurs personnes des institutions. Et c'est là qui se répercute aussi dans la façon de conduire la politique de l'Union africaine. Lorsque un chef d'État refuse de faire un distinguo entre sa personne et l'institution qu'il dirige, là je pense que nous n'irons pas de l'avant. Si on peut faire une comparaison avec ce qu'il y a à l'Union européenne, vous savez, c'est vrai que l'Union européenne a une personnalité juridique distincte des États, mais dans les États, lorsqu'il y a cette démocratie-là, lorsqu'il y a les autorités, les chefs d'État et de gouvernement qui pensent que leur personnalité est distincte des institutions, voilà pourquoi il y a les institutions européennes, comme la Banque Centrale Européenne, qui fonctionnent à merveille. Voilà qui favorise le développement en Europe. Mais en Afrique, ici, c'est difficile. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des hommes neufs. Et pour moi, dans ma définition, un homme neuf, c'est celui qui pense que on devrait d'abord développer l'institution avant de penser à sa personne.
Voilà, donc vous avez rejoint madame, ce que madame disait tout à l'heure, notre invité. Il faut vraiment des institutions très fortes pour permettre à ce que on puisse développer nos États. Merci beaucoup, Kenny, d'avoir appelé de Kinshasa. Joseph, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Oui, bonjour, merci de m'accorder la parole et moi je soutiens l'idée de l'inviter puisque si nous penchons sur le livre de Martin Luther King intitulé Les Africains à travers le temps qui disait que c'est au noir lui-même qui revient le rôle décisif et pour faire appliquer l'intégration. Alors avec le système de l'IA au sein de l'Afrique, je pense que le bilan est tellement vraiment, je dirais que le bilan est négatif puisque c'est quand après l'indépendance, et si nous faisons regard à l'Union européenne, on dirait que le bilan est tellement négatif. Pourquoi le bilan est tellement négatif? Puisque l'Afrique n'a pas des hommes qu'il faut à sa place. Alors, dans ce cas-là, nous demeurons dans la pauvreté et dans des différentes guerres, puisque les gens ne sont pas à leur place. Après l'indépendance, si on dit qu'on est indépendant, c'est-à-dire que nos dirigeants doivent être indépendants, mais jusqu'à présent, ils tendent leur main au sein des Nations Unies et au sein de l'Union Européenne, puisqu'il n'y a pas les gens à leur place. Pourquoi cela? Il y a la guerre, il y a presque tout, disons tous les désordres qui se passent au sein de l'Afrique. Or, l'Afrique aujourd'hui, on dirait que c'est une église au sein du village. Pourquoi? Puisque c'est là où c'est le lieu des réfugiés. Mais allez voir la manière dont nous vivons. Si nous descendons ici au pays et on dirait qu'on est encore, on dirait que c'est un enfer ou quoi, puisqu'il n'y a pas des hommes qu'il faut à la place et les gens ne sont pas unis. Si on devrait avoir comme les ex-présidents, Kadhafi, Laurent Désiré Kabila, avec leur idée, on devrait évoluer. Mais jusqu'à présent, on a toujours le souci de se pencher aux Européens sans pour autant passer aux Africains qui devraient faire extrapoler les continents africains, y compris nos pays. Les pays, la RDC au centre de tout, si on devrait avoir les gens qu'il faut à la place, on devrait continuer à aller voir nos dirigeants la manière dont nous vivons. C'est déplorable.
Voilà, au fait, l'Afrique souffre de cela, la méritocratie à tous les niveaux. Vraiment, il y a des problèmes dans plusieurs États. Merci beaucoup, Joseph, d'avoir appelé. Et on va quand même revenir aussi sur quelque chose sur l'Europe. Et puis bon, alors on va prendre le dernier auditeur de cette deuxième série, Denis, qui est à Béni. Denis, bonjour. Voilà, Denis, parle un peu fort, Denis.
Oui, bonjour. Je voulais intervenir pour dire ceci. Le problème de l'Afrique, c'est un problème de responsabilité. Tant qu'en Afrique, on n'aura pas de dirigeants responsables, tant qu'on n'aura pas de dirigeants avec la conscience, l'Afrique ne pourra jamais se débarrasser de cette crise. Le problème, c'est quoi? L'Union africaine, nous pouvons recréer des institutions. Tant qu'il n'y aura pas des hommes capables pour défendre la cause de leurs administrés, le problème de l'Afrique va toujours demeurer comme elle est. Alors, je voulais intervenir pour dire ceci. Nous voulons avoir les dirigeants responsables. Nous devons avoir des décisions sur l'Afrique. Ce n'est pas à chaque fois avoir des injonctions de la part des Occidentaux. Il faut savoir ce que nous avons, savoir la valeur que l'Afrique a, et savoir travailler, réfléchir sur cette valeur que l'Afrique a aujourd'hui pour se débarrasser de ces crises. C'est l'Afrique qui fait asseoir l'Europe, c'est l'Afrique qui fait asseoir l'Océanie, les États-Unis, mais pourquoi pas l'Afrique elle-même ne parvient pas à se débarrasser de ces crises. L'Afrique tend vers une file de disparition parce que les dirigeants africains n'ont pas cette conscience, n'ont pas la responsabilité. Nous avons un problème de leadership en Afrique. Donc, c'est un peu ça, messieurs les gens.
Merci beaucoup, Denis, d'avoir appelé des bénis. 081-890-63-15.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Une fois encore, si vous nous rejoignez, bienvenue. Arsène, vous êtes en ligne, gardez la ligne, on va vous accorder la parole tout à l'heure. Madame Tokwavulu, vous avez suivi cette deuxième série. D'aucuns, en tout cas, soutiennent votre point de vue hein, en matière des institutions fortes. Mais d'autres, par contre, pensent que non, il faut plutôt des hommes forts. Il faut plutôt des hommes forts, des hommes capables, des hommes responsables, des hommes qui pensent vraiment à l'avenir, qui ont une vision.
Oui, bien sûr, il faut des hommes qui ont une vision. Mais je vais me répéter. Pourquoi faut-il des institutions fortes ? Vous parlez de dirigeants responsables. Mais qu'est-ce qu'un dirigeant responsable ? Un dirigeant responsable, c'est un dirigeant qui répond de son action. Un dirigeant responsable, ce n'est pas ce dirigeant qui répond de son action parce qu'il est chrétien et puis il décide qu'en bon chrétien, je dois gérer le pays, les choses dans l'intérêt du pays. Non. Un dirigeant responsable, c'est un dirigeant qui sait que si je pique dans la quête, je vais en prison. Donc ce sont des institutions fortes qui l'emmènent en prison. Un dirigeant responsable, c'est sec. Si je suis au gouvernement et que je travaille mal, je devrais répondre devant le Parlement. Et je vais trouver un Parlement qui va dire au chef du gouvernement, nous voulons, motion de défiance, nous voulons le départ de votre ministre, disons, de l'énergie. Un dirigeant responsable, c'est celui qui sait que je ne peux pas construire un immeuble de 2 millions de dollars parce qu'on va me demander, papa, votre salaire était de combien et les 2 millions de dollars, vous l'avez eu. Ce sont des institutions fortes. Les hommes ne sont pas des saints. Les hommes sont des pécheurs. Il y a des hommes qui ont une conscience morale. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus faibles, mais en toute connaissance de cause, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse.
Mais alors, une curiosité, madame, aujourd'hui, dans les formats dans lesquels nous évoluons dans notre pays, dans les contextes avec la majorité et la minorité, je parle de l'opposition, au niveau des institutions aujourd'hui, est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui est de la majorité, une idée qui ne va pas au bénéfice de la population, pourrait, en tout cas en âme et conscience, parce que nous ne l'avons pas vu par rapport à toutes les législatures, des gens démissionner, par exemple, les gens dire non, mais voilà, je ne partage pas ce point de vue. En fait, des débats en interne, au niveau de la majorité ou au niveau de l'opposition.
Même pas seulement en interne, au niveau de la majorité de l'opposition, au niveau du Parlement. Parce que si un député, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, demande le départ d'un ministre du gouvernement, nous avons la majorité au Parlement. Pourquoi défendre ce ministre s'il est incompétent? Dans la mesure où si ce ministre tombe, il y a des tas de gens compétents au sein de la majorité pour le remplacer. Donc la gestion d'un pays ne doit pas se voir comme un défi entre majorité et gouvernement. La gestion d'un pays doit se voir comme les résultats. Mais qu'est-ce qu'on constate? Il y a des choses qui ne marchent pas. On pose une question au gouvernement et vous avez toute une majorité qui défend mordicus. Ce ministre qui est incompétent, alors qu'on sait très bien que dans sa famille politique, dans son parti, il y a des tas de gens qui peuvent le remplacer demain matin. Donc c'est pour ça que la politique, opposition, majorité, ne doit pas se voir comme en France, par exemple, où vous faites une politique de gauche, où vous faites une politique de droite. Il n'y a pas 10 000 façons de développer un pays. Vous mettez de l'eau, vous mettez de l'électricité, entre autres. Bon, il n'y a pas 10 000 façons de mettre de l'eau et de l'électricité. Il n'y a pas une façon de gauche ou une façon de droite. Non. C'est le résultat qui compte. Donc le débat sur les hommes ne devrait pas avoir lieu. C'est seulement un débat pour le résultat. Et à partir du moment où vous avez une majorité confortable, vous avez tout un panel d'hommes et de femmes qui peuvent occuper les fonctions. Donc vous devez être très strict sur la compétence et très strict sur le résultat. Mais je répète, peut-être que je répète parce que je suis frustré de ne pas avoir été élu député. Vous avez mis quel député à l'Assemblée nationale ? Il ne faut pas vous plaindre. Il faut seulement penser que la prochaine fois, fois qu'on va élire un député, on ne l'élit pas pour des motifs tribaux, on ne l'élit pas parce qu'il vous apporte un cercueil en cas de matanga, mais on l'élit parce qu'on a écouté son discours et puis on dit « Ah, Madame Tokolo est une femme responsable, alors je veux qu'elle entre à l'Assemblée nationale. » C'est comme ça qu'il faut réfléchir.
Voilà, on va prendre cette... J'imagine que ça pourrait être une dernière série des auditeurs, si jamais la réalisation nous propose encore deux. Bon, je ne sais pas, mais et on a Arsène, on a Maurice et puis Guillaume Bossobolo. Alors, on va revenir, le temps peut-être de prendre Arsène. Vous êtes à Kikuit. Bonjour Arsène.
Bonjour Monsieur JR.
Vous avez la parole Arsène.
Merci pour la parole. Moi, dès le départ, je vais présenter d'abord mes hommages au père fondateur de l'Union africaine, Nkrumah, Haïlé Sélassié et autres. Ils ont planté le grain. Le grain a poussé, mais avec quel résultat? Aujourd'hui, si nous sommes là où nous sommes, nous pouvons nous plaindre comme nous voulons, mais la faute nous revient. Je crois que quand nous allons tout droit avoir notre faute, nous parviendrons à trouver des solutions. Nous, Africains, nous nous sommes basés sur une théorie de dépendance. On a grandi dans la dépendance. La dépendance, commençons par, par nos colonisateurs, qui est arrivé à un point où on ne pouvait plus avancer. Il y a eu des gens qui se sont levés et qui ont conscientisé la population africaine. Le résultat, ce sont les indépendances, par-ci, par-là. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où on a changé l'Organisation des Nations africaines, on a changé, on est devenu l'Union africaine, mais toute cette dénomination-là nous amène à quoi? Nous devons changer, donner une nouvelle vision de l'Afrique. Et pour donner une nouvelle vision de l'Afrique, il faut revenir au pas de départ de nos pères de l'indépendance. Le point de départ, c'est quoi? C'est l'instruction, c'est l'éducation à la citoyenneté, la vraie citoyenneté africaine. Alors, de là, nous pouvons avoir une vision correcte de l'Afrique.
Oui, Arsène. On le sait tout de même qu'aujourd'hui, les mots d'ordre de l'Union africaine, c'est la transformation, croissance, dynamisme, progrès et partenariat.
Oui, effectivement, si c'est pratiqué. Ce ne sont que des théories démagogiques. Là, en tout cas, monsieur, je crois qu'on ne fera rien. Parce que ces discours-là ne datent pas d'aujourd'hui. Moi, je suis un enfant de Mobutu. Nous sommes déjà habitués au discours. Voyez le discours de Mobutu à l'ONU, JR. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a tout dit. Et c'est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Nous ne nous rendons pas compte. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les enfants vont à l'école, ils ne sont pas conscientisés, ils ne sont pas éduqués de manière à avoir l'amour de l'Afrique, à avoir l'amour de la patrie. Les enfants sont négligents. Ils arrivent à l'école, le monsieur est affamé, qui commence d'abord à chercher du pain, qui commence à chercher du transport, et finalement, comment ce monsieur peut éduquer l'enfant pour que l'Afrique de demain, parce qu'aujourd'hui nous pouvons crier, mais l'Afrique de demain, ce sont nos enfants qui sont à l'école aujourd'hui. Donc, il faut commencer par aujourd'hui, rééduquer l'Africain pour lui donner une orientation, pour que demain, avec son instruction et son éducation, vont changer tous les mots que nous avons. Nous parlons de la corruption, nous parlons de tricherie, nous parlons de guerre, nous parlons
de déplacés internes,
Donc, la conclusion pour terminer, je dirais ceci, il faut que l'Afrique se réveille en éduquant son avenir. Son avenir, ce sont les enfants d'accord. D'aujourd'hui.
Arsène, merci d'avoir appelé les Kikuit et surtout d'avoir contribué dans cette émission. On va prendre Maurice à Kinshasa et on terminera avec Guillaume qui est à Bossobolo. Maurice, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Gér Lungembo.
Vous avez la parole.
En fait, Gér, je commence d'abord par faire un recadrage. Je pense que je suivais tout à l'heure les points de vue qui ont été émis d'une part par madame qui soutient qu'il faut des institutions fortes et de l'autre part, côté, l'ensemble des auditeurs qui soutiennent des hommes forts. Mais je pense qu'en réalité, tous disent la même chose. Madame qui dit des institutions fortes, ce n'est qu'une conséquence des hommes forts. Ces hommes forts, ce ne sont pas des hommes en armes. Ces gens qui font brandir, qui sortent des chambres de commandes,
qui sont responsables,
revendiquer par exemple de revendiquer les droits qui sont reconnus par exemple par des différentes constitutions de peuples africains. Mm-hmm. Alors, les hommes forts dont on a besoin, ce sont des hommes de haute moralité. Parce que vous êtes sans ignorer que les mâles qui rongent nos sociétés africaines, notamment les pays ici, c'est les mâles moraux. Donc c'est un mâle qui est d'abord moral. Donc ça, il faut quand même d'abord le souligner au départ. Donc, madame, en disant que les institutions fortes sont des institutions qui doivent être
animées par des hommes
conséquentes aux hommes forts, des hommes de haute moralité dont l'Afrique souffre aujourd'hui. Alors, il faut parler de l'Union africaine. L'Union africaine, en fait, pour moi, c'est une organisation, en fait, des tyrans. Ce n'est pas une organisation qui est là aux intérêts des Africains, des peuples africains. Parce que vous pouvez constater, par exemple, prenons l'exemple de notre pays. Ce pays a connu récemment, il y a eu des élections. Madame fait allusion toujours de ces élections. Il y a eu des élections. Vous avez vu dans quel environnement les élections se sont déroulées dans ce pays. Il y a eu des gens qui ont été élus, qui ne dirigent pas au niveau de la présidentielle. Il y a des gens qui ont été élus au niveau de législatif, qui ne dirigent pas, qui ne sont pas plutôt au Parlement. Alors, et vous avez vu lors des recours, vous avez constaté au niveau même de la Cour suprême de justice, qu'il y a eu un nombre important, plus élevé de gens qui
ont
eu une majorité factice. Et mais, au niveau de la présidentielle, il y a eu unanimité. Alors, quelle a été la place de l'Union africaine? L'Union africaine a laissé la situation pourrir en RDC. On n'a pas vu la réaction de l'Union africaine. On a connu un problème de guerre au niveau de l'est du pays. Une guerre fomentée, fabriquée de toutes pièces par des gens qui dirigent ce pays. Parce que le rapport de l'ONU l'atteste. Les gens qui ont fourni des armes. Nous avons des rapports de l'ONU. Alors, nous avions entendu silence radio du niveau de l'Union africaine. Mais l'ONU quand même a fait des efforts. À travers, par exemple, l'accord cadre d'Addis Abeba, dont certains pays, même celui-ci, est signataire. Alors, aujourd'hui, l'Union africaine, plutôt la mise en place, la mise en exécution de cet accord cadre par rapport, par exemple, à une disposition qui convoque un dialogue inclusif juste pour mettre fin au problème des élections qu'on a connues dans ce pays. Mais certaines personnes se disent que non, Martin Kobler est en train de faire des choses qui ne sont pas conformes à je ne sais à quoi. Mais vous signez, mais vous n'arrivez pas à respecter vos propres signatures. Ça, je voudrais dire ceci, que l'Afrique
a besoin
des hommes respectueux des textes, des hommes respectueux de leurs propres engagements et non des hommes forts qui brandissent des armes, qui brandissent des chars de combat lorsqu'il s'agit des revendications légitimes des intérêts des peuples.
Merci beaucoup. Alors, Maurice, merci beaucoup en tout cas pour cette contribution. On revient à vous, madame. Parce qu'on a comparé aussi quelque part là l'Europe. L'Europe aujourd'hui, c'est comme si c'était Eldorado. Tout va bien, et la gouvernance est respectée, il y a le leadership, il y a tout va bien. Mais en Afrique, il y a toujours des problèmes.
D'abord, je voudrais qu'on se réconcilie sur le thème d'homme fort. Comme moi, je parle d'un homme fort, c'est un homme qui s'impose en dehors des institutions démocratiques. C'est un homme qui a l'adhésion de la population parce qu'il est lui, parce qu'il a un discours, il a un discours qui plaît à la population, parce qu'il est un sauveur, parce qu'il est ceci, cela. Je fais une différence entre un homme fort et un leader. Un leader politique s'appuie sur des institutions. Donc quand je parle d'un homme fort, c'est quelqu'un qui est hors institution. Quand je parle d'un leader, c'est un leader politique qui s'appuie sur des institutions et qui a besoin d'un appui d'une population citoyenne qui comprend ses responsabilités. Ça, c'est une chose. Maintenant, parlons de l'Europe. L'Europe est conçue comme un Eldorado, mais l'Europe a mis du temps pour se construire. Lorsque nos enfants choisissent d'aller mourir en Méditerranée ou dans l'océan Atlantique ou de se précipiter dans les boat people de Lampedusa. Ils savent que là-bas en Europe, il y a la sécurité sociale, il y a les mutuelles, il y a les soins médicaux et que les Européens ont un certain humanisme qui fait que dès que tu as accepté sur son territoire, tu obtiens ta carte du chômage et on te fait manger. Parce que les Européens ne peuvent pas accepter que des populations noires se retrouvent par terre dans la rue comme à Calcutta ou en train de mendier. Mais ça a pris du temps pour se construire. Ça a pris 200 ans et ils ont fait des sacrifices. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez en Europe la montée de l'extrême droite. Vous constatez la montée de l'extrême droite des gens qui disent « Mais il y en a marre, il y a trop d'immigration ». Nous savons que dans l'extrême droite, il peut y avoir des racistes, il peut y avoir des antisémites, mais lorsque ça devient institutionnel, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas antisémites, et qui sont là, qui disent « il y en a marre ». Alors où est-ce que nous allons? Où est-ce que l'Europe est en train d'aller? Parce que l'Europe fait face à deux choses, l'immigration massive et le chômage. le chômage de ces gens. L'un n'a rien à voir avec l'autre. Hein. Ce ne sont pas les immigrés qui ont cause du chômage. C'est la mondialisation qui fait que les entreprises s'installent là où la main-d'œuvre est moins chère. Donc l'Europe va continuer à faire face à ces deux choses. L'immigration et le chômage. L'immigration et le chômage. Monter de l'extrême droite, mettez de l'extrême droite, on arrive où? On peut arriver jusque... Est-ce qu'on peut dire le mot? On peut arriver jusqu'au fascisme. Et quelles conséquences pour l'Afrique? Moi, j'ai étudié en Europe. J'ai fait mes études en Europe. Mais est-ce que nos enfants ici ont la possibilité de voyager? D'avoir des visas? Moi, je suis une autorité. Mes enfants voyagent. Mon fils est à l'université aux États-Unis.
Mais les autres?
Mais les autres! Le jour où ma fille est partie à l'ambassade de Grande-Bretagne et qu'on lui a refusé un visa, j'ai dit quoi? Donc, nos enfants se retrouvent parqués ici comme des animaux dans le parc de Virunga. J'ai pris le document, j'ai couru jusqu'à l'ambassade de Grande-Bretagne. J'ai dit, je veux voir le responsable immédiatement. Je suis prêt à rester 6 mois sous la pluie devant votre ambassade juste à ce que ma fille obtienne un visa. Au bout de 2 semaines, elle avait son visa. Elle est partie avec ses amis étrangers. Elle est revenue. Les enfants des Européens se promènent en basket et en sac à dos. Ils font le tour du monde. Et nos enfants sont enfermés ici comme des animaux.
Donc,
vous savez pourquoi?
Il faut des institutions.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail. Alors ils disent que s'ils partent là-bas, c'est pour rester et pour toucher la sécurité sociale et pour bouffer le pain des Français ou des Belges. Donc il faut que nous nous développions pour que nos enfants aient la chance de vivre une vie normale.
Voilà, merci beaucoup Madame Tokwaolo Aina d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de partager avec nous cette thématique liée à l'impact des programmes initiés par l'UIA en Afrique et puis en RDC en particulier. En tout cas, nous allons revenir parce que le temps nous fait défaut, c'est par ici que nous terminons cette émission. En tout cas, il ne reste qu'à vous dire merci et à très bientôt.
C'est gentil de m'avoir invité et merci à tous les auditeurs.
Allô? Mais ils ne répondent pas?
Voilà, c'est par ici que nous mettons terme à ces programmes. Nous disons merci à Mimi Kindou et Noëlla Luzitu qui ont concouru pour la production de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Nikon Gaka. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.